troisième temps de notre semaine consacrée aux politiques environnementales. Aujourd'hui, comment les Romains percevaient-ils leur environnement ? Après avoir évoqué lundi en ouverture de semaine l'importance de l'étude historique des politiques environnementales, puis hier avoir plongé dans l'ambiance très 19e siècle de la création des abattoirs qui remplacèrent alors ce qu'on appelait les tueries pour tuer les animaux, nous allons ce matin nous demander si la natura romaine avait quelque chose à voir avec la nature occidentale contemporaine et ce que signifiait même ce terme d'environnement. Peut-on l'appliquer à cette période historique, environnement urbain ou environnement rural pour un citoyen romain? Nous en parlerons avec Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire et grâce au texte lu par Nathalie Canoui et commenté par nos deux invités, Benoît Rossignol. Il est maître de conférences en histoire romaine à l'université de Panthéon-Sorbonne. Il a contribué entre autres à l'ouvrage Occident romain paru aux éditions Errance. Et avec Emmanuel Bott, il est archéologue chargé de recherche au centre Camille Julian du CNRS à Aix-en-Provence et auteur, attention, jeu de mots, de Fish and Chips. Vous verrez sur le site de France Culture ce dont il s'agit. C'est un livre sur l'exploitation de la mer à l'époque antique et c'est publié chez Actes Sud Errance. Et puisque nous sommes dans l'émission d'archives du mercredi, nos archives aujourd'hui ne sont pas sonores, bien évidemment. On n'a pas encore reconstitué l'environnement sonore de l'époque romaine, même si certains chercheurs tentent de le faire. Mais ce sont des archives de textes qui sont lus aujourd'hui par Nathalie Canoui. Et d'abord, un texte de Varron, un auteur du 1er siècle, donc avant Jésus-Christ.
Puisqu'il existe traditionnellement deux modes de vie pour les hommes, l'une à la campagne, l'autre à la ville, comment n'est-il pas évident, Pinus, que ces types de vie non seulement diffèrent par le lieu, mais ont aussi dans le temps une origine diverse? En effet, la vie au champ est beaucoup plus ancienne, parce qu'il fut un temps où les hommes habitaient les campagnes et n'avaient pas de ville. Il y a 700 ans, un peu plus ou un peu moins, que l'illustre Rome a été fondée sous d'augustes augures. Thèbes, fondée, dit-on, avant le déluge d'Augigos, a cependant quelque 2100 ans. Si l'on rapproche cette époque de l'âge primitif, où l'on a commencé à cultiver les champs et où les hommes habitaient dans des cabanes et dans des huttes, sans savoir ce qu'était un mur et une porte, on voit que les agriculteurs sont antérieurs aux habitants des villes d'un très grand nombre d'années. Rien d'étonnant à cela, puisque la divine nature a donné des champs, alors que la technique humaine a construit des villes, puisque tous les arts, dit-on, ont été inventés en Grèce en l'espace d'un millier d'années, tandis qu'il n'y a jamais eu d'époque où des champs dans le monde n'aient pu être cultivés. Et non seulement la culture des champs est plus ancienne, mais elle a plus de valeur. Et ce n'est donc pas sans raison que nos ancêtres essayaient de ramener leurs concitoyens de la ville à la campagne, car en temps de paix, ils étaient nourris par les Romains de la campagne, et en temps de guerre, ils bénéficiaient de leur protection. Et ce n'est pas sans raison qu'ils appelaient la terre en même temps mer et Cérès, et qu'ils considéraient que ceux qui la cultivaient menaient une vie pieuse et utile, et qu'ils étaient les seuls survivants de la race du roi Saturne.
Un extrait d'un texte de l'économie rurale de Varron pour ouvrir donc cette émission d'aujourd'hui consacrée justement à la question de l'environnement, de la nature dans la Rome antique. Avec vous, Victor Massé de l'Épinay, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et avec nos deux invités, Emmanuel Bott, bonjour.
Bonjour.
Et Benoît Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Alors Benoît Rossignol, ce texte nous plonge tout de suite dans une vision de l'histoire d'abord, que pouvaient avoir les Romains, la construction lente de la civilisation, donc partant du moment où les agriculteurs travaillaient le sol, parce qu'ils ont toujours travaillé le sol, explique ce texte de Varron, jusqu'à la construction des villes, donc une vision temporelle qui nous permet déjà de construire peut-être une façon de voir ce qu'était cette longue histoire du rapport de l'homme à la nature dans l'Empire romain ou dans la période romaine en l'occurrence.
Oui, il y a une conception en termes d'âge. Les âges se succèdent et souvent l'âge des origines est vu comme un âge d'or. C'est l'époque de Saturne et elle est ramenée à la nature, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire la campagne, des inventions qui sont vues un petit peu comme providentielles. Il y a cette expression divine nature, il y a la mention de Cérès, l'idée que tous ces arts sont apparus en Grèce. Donc il y a la conception d'un origine à partir duquel on va se, d'un point d'origine à partir duquel on se situe et que on a aussi envie de retrouver, c'est un peu la quête de valeur qui serait importante, qui définirait naissance un petit peu de la romanité. C'est ces campagnes dans lesquelles on se met à faire fructifier les dons de la nature.
Oui, et donc c'est effectivement aussi le cas de Cincinnatus, par exemple, Emmanuel Bott, cette idée qu'on peut partir de la ville, Rome, l'ours, justement, pour pouvoir retourner, une fois qu'on a géré les affaires de la cité, dans sa campagne.
Effectuer un retour aux sources, et surtout, je crois que c'est la vision de la campagne, c'est surtout un topos sur la vision d'un passé idéalisé, où en fait, à la campagne, la vie est simple, frugale, tandis qu'à la ville, elle est soumise aux excès, au luxe, et aux nuisances notamment.
On en parlera avec vous justement de ces nuisances urbaines. Victor Massé de l'Épinay.
Oui, avant d'aller un peu plus loin, et peut-être qu'il faut faire un peu d'épistémologie, puisque dans ce texte de Varron, et on le voit depuis qu'on en parle, il y a une confusion ou une identité, du moins, entre la nature et la campagne, comme si la campagne était quelque chose d'éternel, comme si les champs étaient là de toute éternité, n'était pas une construction humaine. Est-ce que le terme de nature, puisqu'il va en être question aujourd'hui, est un terme pertinent pour les Romains? Est-ce que nous-mêmes, nous avons le même sens, nous mettons les mêmes choses sous ce mot de nature? Est-ce que c'est pas biaisé de parler de nature pour les Romains avec ce qu'on y met nous aujourd'hui?
Benoît Rossignol.
Il y a une grande différence entre cette natura et notre nature, parce que on se situe avant ce qu'on pourrait appeler le grand partage. Je pense aux travaux de Philippe Nescola. La nature romaine...
Il faut préciser, le grand partage, c'est le partage que Philippe Nescola, donc anthropologue ayant travaillé beaucoup en Amazonie, élève de Claude Lévi-Strauss, a défini comme étant la particularité peut-être européenne en tous les cas, et de l'Europe du XVIIIe siècle en particulier, de séparation entre nature et culture.
C'est une espèce de boussole pour essayer de situer un petit peu la position des différentes sociétés par rapport à l'univers, ce qu'il appelle les ontologies. Les Romains, eux, se situent de manière très différente de nous. Cette nature romaine, elle est beaucoup plus englobante finalement que la nôtre. Si on prend l'histoire naturelle de Pline, on a une encyclopédie, on va trouver de l'histoire que nous, sur laquelle on mettrait une étiquette humaine, culturelle. Quand il traite des métaux, il traite aussi des sculpteurs, de l'art. Et cette nature, elle est aussi, on pourrait dire, habitée en quelque sorte. Cette idée de providence, de destin, qui fait qu'elle a un projet avec elle.
Elle n'est pas extérieure à l'homme, elle n'est pas extérieure à l'homme romain ou à la femme romaine en l'occurrence.
Pas au sens où nous, on voit notre nature comme extérieure. Après, les Romains considèrent souvent que justement à cette nature, il faut rajouter l'art, justement. C'est ce que disait Varron. La nature a offert les champs, la campagne. Il revient à l'homme de rajouter une civilisation, la ville, etc.
Emmanuel Bott, sur cette conception romaine, pourrait-on dire, qui est peut-être aussi héritée de la physis des Grecs, et peut-être pas tout à fait, mais enfin, en partie héritée de la vision de la physis des Grecs. Donc, cette conception romaine de la nature.
Je crois aussi qu'il faut ajouter peut-être, avec Bedancignol, une sphère liée au monde du divin. Parce qu'il y a toujours quelque chose où ça se fait dans le respect des divinités, où on essaie de veiller à ne pas les contrarier, en tout cas.
Et ça, c'est donc important, effectivement, de rester dans cette vision dans laquelle, effectivement, les dieux sont aussi un peu partout. Ils sont du côté des sources, ils sont du côté des lieux dans lesquels on travaille quotidiennement. Et donc, d'une certaine façon, ils sont avec vous et avec la nature en question, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, Benoît Rossignol.
On pourrait même dire que les dieux sont des créatures naturelles, au même sens que les hommes, ou les pierres, les arbres. Cette nature, elle est vue en quelque sorte comme une espèce de hiérarchie. C'est l'échelle des êtres qu'on va retrouver aussi, enfin, qui trouve son origine chez Aristote, puis qu'on va retrouver jusque chez Plotin. Il y a une hiérarchie dans l'univers que la nature organise, et tous ces êtres ont des rapports entre eux, de correspondance. Donc les dieux sont partout, et effectivement, il s'agit de se les concilier, d'avoir les justes rapports avec eux, pour ne pas subir les conséquences des déséquilibres.
Victor Massel Lépinet.
Est-ce que cette naturalité des sociétés humaines, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, les sociétés naissent dans la nature et vivent dans la nature, est-ce que ça veut dire que les Romains considèrent que l'homme ne s'oppose jamais en rien à la nature et que tout ce qu'il fait s'inscrit dans un cadre naturel ou dans un développement de la nature?
Non, Rossignol.
Non, parce que justement, on peut s'en écarter, même si souvent, quand on s'en écarte, c'est vu, comme Emmanuel Bolz l'a dit tout à l'heure, de manière un peu péjorative, ça peut apporter des nuisances. Par d'autres moments, c'est vu comme justement quelque chose de positif. L'homme apporte à la nature un complément. Ça rentre en quelque sorte dans le projet de la Providence, pour une partie des Romains, comme ceux qui justement suivent un petit peu les idées stoïciennes. Et je pense par exemple à un texte du juriste Ulpien, qui dit que les hommes sont libres par nature. La nature a fait les hommes libres. Et c'est le droit positif, c'est le travail des hommes que d'avoir inventé l'esclavage, et c'est une chose positive. Parce que ça a mis de l'ordre, ça a permis de... Donc on voit que là, il y a des représentations très différentes des nôtres. Pour nous, la liberté naturelle serait la chose à suivre, et pour Ulpien, bien le droit positif rajoute une construction dont on avait besoin, l'esclavage.
Et justement, il y a cette vision de la nature que l'on décrit depuis tout à l'heure, et en particulier celle de la campagne. Tibulle, donc le poète élégiaque, donc chante les campagnes, un texte lu par Nathalie Canoui.
Je chante les campagnes et les dieux de la campagne. Leurs leçons ont fait perdre à l'homme l'habitude d'assouvir sa faim avec le gland du chêne. Ces dieux lui ont appris les premiers à assembler des charpentes et à couvrir une étroite demeure d'un feuillage verdoyant. Les premiers aussi, dit-on, ils apprirent au bœuf à le servir et adaptèrent au chariot la roue. Alors on renonça aux animaux sauvages, alors fut planté l'arbre fruitier, alors le jardin bien arrosé but l'eau qui le fertilisa, alors la grappe dorée, pressée sous les pieds, donna son jus, et l'eau des sobres fut mélangée au vin pur qui ôte le souci. Les campagnes produisent les moissons quand, au fort de la chaleur du soleil, la terre, chaque année, abandonne sa blonde chevelure à la campagne. Au printemps, l'abeille légère amasse le suc des fleurs dans sa ruche, empressée à remplir du doux miel ses rayons.
Ήμιψαν νεύρα πρώην και την λύρη νάπασαν. Καγόμεν είδον άθλους Ηρακλέους, λύρη δέρωτα σαν δεφόνη. Χαίρετε λοιπόν ημίν ήρωες.
Un extrait d'un texte de Tibulle, donc, que vous allez peut-être commenter pour nous. Mais d'abord, Victor Massel-Lépinet.
Oui, Tibulle semble nous dire donc que l'homme, grâce au dieu de la nature, magnifie la nature, que son action, que la charpente, que l'invention de la gastronomie, puisqu'on ne se nourrit plus du gland du chêne sauvage, que tout ça magnifie la nature, mais s'inscrit dans la nature, est le projet de la nature. L'homme a un rôle à jouer en magnifiant la nature. Est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit,
Benoît Rossignol?
Oui, il y a de ça. Il faut aussi voir tout ce que cette poésie a un peu de, ce que disait Emmanuel Boll, de lieux communs, on pourrait dire aujourd'hui de clichés, mais c'est un peu plus profond que ça, parce que les lieux communs, c'est ce qui crée une solidarité entre tous ces gens très cultivés. Et il y a des échos qui remontent justement à la culture grecque, à Hésiode, aux travaux et aux jours. Et on est aussi dans un moment où ce message très bucolique prend un sens aussi important. Quand Tibulle écrit, on est à la grande époque de la poésie de l'époque d'Auguste, le premier empereur. On est dans un monde qui sort des guerres civiles. Il s'agit aussi de donner un message en quelque sorte politique, de revenir à l'ordre, de revenir à une logique de vie. Il faut suivre les règles du monde, et les règles du monde sont désormais celles du Nouvel Empire, en quelque sorte. Et c'est une promesse de prospérité, de paix, de calme aussi que cette poésie. Et donc derrière cette idée que l'homme doit accomplir la nature en suivant ses règles, en suivant ses commandements, en quelque sorte, pour aller vers la prospérité, ce sont des poètes qui allaient très bien avec le projet d'Auguste qui mettait en place son régime politique.
Oui, Emmanuel Bott, sur ce texte de Tibulle, mais plus largement, effectivement, sur cette
idée. Il y a à la fois l'idée de respecter la nature et de travailler selon ses rythmes, mais ça illustre aussi, on va dire, une exploitation de la nature, parce que dans certains textes, il apparaît aussi la volonté de l'homme de montrer qu'il domine aussi la nature, qu'il sait maîtriser les éléments. Et donc, à travers ça, on voit aussi que ça relance tout ce qui est, par exemple, lié à la gestion des forêts, à la gestion des sols. Et donc, notamment pour le bois, par exemple, ça va ressortir dans... Je ne sais pas si on peut parler de déforestation, mais en tout cas, on va illustrer l'exploitation massive des forêts, que ce soit pour la construction...
Naval,
charpenterie navale,
ou la charpente,
tout le chauffage, tout simplement pour fournir des villes comme Rome, et pour le chauffage, ou encore ce qu'on appelle la poix, donc, qui est un élément, une résine qui est indispensable dans la vie de tous les jours, et notamment dans le monde des bateaux.
Oui, et donc justement, il faut s'approcher non pas simplement des représentations et des visions poétiques ou philosophiques, mais de la réalité, peut-être de ce qu'a été la construction à la fois de Rome et de l'Empire qui s'appelle l'Empire romain. Et pour cela, effectivement, il y a des visions qui sont géopolitiques, pourrait-on dire, évidemment, celle de Strabon, auteur donc au tournant de notre ère, donc lui aussi proche de la période augustéenne, ou même en pleine période augustéenne. Eh bien, Strabon raconte dans un texte de sa géographie comment Rome a conquis donc sa suprématie sur le reste du monde méditerranéen. C'est un texte qui nous est lu par Nathalie Canoui.
Dans les premiers temps, il est vrai, quand d'autres que les Romains possédaient des terres étendues et fertiles tout autour de Rome, alors que l'emplacement de la ville était à la merci d'une attaque, ce qu'on aurait pu leur envier, ce n'était certainement pas le lieu que le sort leur avait assigné. Mais quand ils se furent appropriés tout le pays à force de vaillance et d'efforts, on vit en quelque sorte affluer chez eux des richesses qui dépassaient tout ce que peut offrir la nature en fait d'avantage. Aussi, malgré les dimensions qu'elle a atteintes, la ville peut-elle faire face à tous ses besoins, tant pour son ravitaillement en vivres que pour les fournitures de bois et de pierres requises sans interruption par les effondrements et les incendies, de même que par les ventes et reventes d'immeubles qui se succèdent elles-mêmes sans interruption et qui équivalent en quelque manière à des effondrements volontaires, puisque de nouveaux acquéreurs démolissent les unes après les autres les maisons qu'ils achètent pour en reconstruire d'autres à leur place. Pour subvenir à ses besoins, donc, Rome dispose des ressources exceptionnelles que mettent à la discrétion les nombreuses carrières de pierre, les forêts, enfin les cours d'eau utilisés pour les transports.
Voilà comment, Emmanuel Bott, on peut dire qu'il y a une prise de conscience de ce qu'on appellerait aujourd'hui la prédation humaine sur l'environnement, c'est-à-dire qu'effectivement, pour construire une ville comme Rome, et surtout pour la reconstruire, soit parce qu'il y a des incendies, soit parce que effectivement elle nécessite d'être embellie, eh bien il faut puiser sur les ressources qui sont aux alentours, avoir des carrières de pierre, dit Strabon, des forêts et des cours d'eau qui permettent le transport de tout cela jusqu'à la grande ville de Rome.
C'est sûr que à l'époque où écrit Strabon, on est quand même à un moment où il y a une expansion considérable, mais surtout aussi un développement de la population et une exploitation, ce qui crée du coup une demande et donc un besoin de réponse par une augmentation massive de la production. Et donc c'est à ce moment-là, en effet, qu'on voit se développer l'exploitation de zones comme par exemple la zone de Carrare qui va fournir en marbre tout l'Empire. Et pour autant, on n'a pas l'impression que les Romains aient pris conscience de piller leur patrimoine et de faire une surexploitation, on va dire, de leur carrière et d'y mettre un terme. Au contraire, on voit que à partir du moment où les carrières de marbre blanc de Carrare sont exploitées, ça ne s'arrête pas.
Victor Massé-Lépinet.
Il n'y a aucune condamnation ou aucun sentiment de culpabilité dans ce texte de Strabon. On va voir plus tard dans l'émission qu'on s'est posé la question à un moment donné de la finitude ou de la limite des ressources naturelles. Est-ce que cette question est arrivée, je dirais, à un moment ou est-ce qu'elle a toujours été sous-jacente?
Emmanuel Bott.
Ça apparaît, on va dire, de manière intermittente. Ça apparaît dans quelques textes comme... On voit par exemple un auteur qui se plaint que les eaux de l'Italie sont dépeuplées de poissons et qu'il a fallu faire venir des poissons des côtes de Méditerranée orientale.
Et que ce serait à cause de l'action humaine.
À cause de l'action humaine. À part ça, ça reste quand même des points de détail. On a l'impression qu'ils ont continué à exploiter leurs ressources en cherchant des moyens éventuels de les préserver, tout en continuant à les exploiter.
Et puis, de toute façon, l'augmentation géographique, pourrait-on dire, de l'Empire romain, permettait aussi peut-être, au fur et à mesure, d'augmenter les zones sur lesquelles on pouvait prélever des biens, Benoît Rossignol.
Oui, là, on voit bien, avec le cas de Strabon, qu'on a un peu deux regards un peu contradictoires. C'est-à-dire que si l'âge d'or est à cette époque bénie de Saturne où on était tous dans les campagnes, il y a l'idée que la nature finalement va vers un certain déclin. On a toujours cette peur que ça soit moins bien demain qu'hier. Et en même temps, on voit bien à l'époque de Strabon, il y a un certain optimisme et une glorification. Là, on a un panégyrique de Rome. C'est cette ville qui se reconstruit sans cesse, qui grandit, et qui est justement la rencontre d'un destin naturel, hein, le lieu que le sort leur avait donné, et d'une vaillance, d'un effort, de l'industria romaine, finalement. Et donc, chez Strabon, il n'y a pas cette inquiétude qu'on puisse buter sur des limites. Et c'est vrai qu'il est à une époque où Rome s'organise pour faire face à cette croissance considérable. C'est un monstre urbain.
1 million d'habitants,
c'est ça? À peu près. C'est le chiffre qu'on retient et il est sans doute vraisemblable. Donc il faut la Méditerranée entière, finalement, pour nourrir Rome, pour acheminer tous les produits qu'elle demande.
Victor Massé-Lépinet.
Et cette question va peut-être se poser aussi cycliquement ou épisodiquement, avec plus d'acuité à des moments de crise. Crise qui peuvent être... Les incendies sont sans doute ont été des catastrophes à Rome, mais des crises peut-être naturelles ou climatiques. Est-ce qu'à ce moment-là, les Romains mettaient ces crises sur le compte des dieux, sur leur action ou sur encore d'autres choses comment est-ce que ça faisait système dans l'esprit des Romains?
Benoît Rossignol.
Dans le panégyrique de Trajan, qui est donc l'éloge du meilleur des empereurs, Pline dit que la bienveillance des dieux est ce qu'elle est, mais qu'elle n'est pas telle que toutes les zones de l'Empire vivent dans la prospérité au même moment. On sait bien qu'il y a nécessairement des disettes, ça fait partie de l'ordre du monde, il y a des difficultés. Et il revient donc à la sollicitude de l'empereur de permettre les échanges, les transports, pour compenser cette insuffisance du monde. La mauvaise récolte fait partie de l'ordre du monde, qui est providentiel, donc ça doit bien servir à quelque chose, dirait un stoïcien comme Strabon. C'est quand certaines limites sont atteintes que effectivement on peut penser qu'il y a eu un problème avec les dieux, qu'il y a une certaine colère divine qui peut s'exprimer, on va chercher les oracles, on va éventuellement chercher ce qui a pu perturber la paix des dieux.
Et prenons l'exemple sur lequel vous avez travaillé, en l'occurrence, pour être relativement concret, Benoît Rossignol, cet exemple de la période qu'on appelle la peste antonine. C'est la deuxième moitié du deuxième siècle après de notre ère, donc entre le règne de Marc Aurèle et celui de Commode à peu près, entre 165 et 190. Et cette peste antonine, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'était véritablement une peste ou une autre maladie, sévit dans l'Empire romain, en même temps qu'il y a des disettes, en même temps qu'il y a d'autres types de problèmes. Et au bout du compte, quand on étudie, comme vous l'avez fait, Benoît Rossignol, ce moment particulier, donc d'un demi-siècle après une sorte d'âge d'or tel qu'il a été décrit depuis l'époque augustéenne, eh bien, on a du mal en tant qu'historien à démêler les fils. Et c'est là aussi où il faut arriver sur le concret du travail de l'historien sur ces questions de politique environnementale. Qu'est-ce que peut faire un dirigeant d'une cité romaine dans lequel sévit cette peste, dans lequel arrive une disette? À qui va-t-il, vers quel saint pourrait-on dire, alors qu'on n'est pas dans une époque chrétienne, va-t-il se tourner? Est-ce que c'est l'empereur? Est-ce que c'est les dieux? Comment va-t-il faire en sorte que cette crise, entre guillemets, temporaire, ou un peu plus longue, soit résolue, Benoît Rossignol?
Alors, les moyens étaient assez limités. Du point de vue de la disette, le moyen, c'est de faire venir du blé d'ailleurs. Alors, si la disette est plus ou moins étendue, les choses deviennent plus problématiques. Là, l'empereur a des greniers, qui sont les greniers de la Nonne. Il peut aider. On voit justement cette occasion, sous Marc Aurèle, il y a plusieurs villes en Italie qui, sur des inscriptions, témoignent du fait qu'elles ont été aidées par la bienveillance, la sollicitude de l'empereur, qui a envoyé des administrateurs et du blé pour aider ces cités. Du côté de la peste, évidemment, qui, le consensus actuel, considère que c'était la variole, la peste antonine. Ce sera peut-être un jour confirmé ou infirmé par des prélèvements archéologiques. Il n'y a pas grand-chose à faire. D'autant plus qu'on comprend mal le mécanisme, évidemment, de la contagion.
Oui, Galien, donc c'est l'époque de vie, donc le grand penseur médical de cette période. Galien n'a pas d'autre choix que d'envoyer quelqu'un dans un endroit où l'air est plus pur, où le lait est de meilleure qualité, ne sachant pas très bien comment faire pour pouvoir contrevenir à cette malédiction, donc cette peste, donc qu'on appelle la peste antonine.
Oui. Et donc la religion est importante au sens où elle permet de recréer un petit peu des liens dans une communauté qui est mise à l'épreuve par cette inquiétude forte. C'est-à-dire la peste, c'est un événement politique parce que le consensus, la concorde qui doit régner dans la cité entre les citoyens, mais aussi entre les citoyens et les dieux, semble rompue. Les choses ne se correspondent plus.
Et puis l'épidémie vient dans une période où on pense avoir mis au point dans les villes, ces grandes villes et en particulier à Rome, des systèmes sanitaires, hygiéniques, de latrines, etc., qui d'une certaine façon repoussent plus loin justement ces questions de grandes épidémies, et malgré tout elles arrivent.
Oui, la ville doit être salubre. Pour qu'on vive heureux dans la cité, il faut qu'elle soit salubre, il faut que les eaux, les airs et les lieux correspondent à la bonne santé. Et donc c'est un désordre du monde que l'épidémie. Donc il faut se rassurer avec des dieux.
Victor Massé-Lépinay.
Oui, on a beaucoup parlé de la nature depuis le début de cette émission. Peut-être qu'il faut parler maintenant un peu d'environnement et se poser la même question. Est-ce que ce terme d'environnement a une pertinence pour les Romains? Puisque l'environnement, ça permet de parler d'environnement urbain. Emmanuel Bott, vous avez travaillé en particulier sur les odeurs de la ville. Galien, qui envoie ce jeune pestiféré ailleurs, parle de cet air vicié, de cet air de la pestilence de l'air à Rome. Est-ce que ces questions de salubrité, parce que là l'action humaine anthropique est évidente, ce sont les hommes qui empuantissent l'air ambiant.
Qui crée ces nuisances, oui, ça c'est sûr.
Qui crée ces nuisances. Est-ce qu'on réfléchissait en termes d'environnement pour de nuisances environnementales, on pourrait dire aujourd'hui?
J'ai l'impression que cette notion apparaît assez tardivement, et même, enfin, on va dire, durant l'Antiquité tardive, puisque pour les époques qui en tout cas moi m'intéressent, à l'époque républicaine et au Haut-Empire, on voit bien que tout type d'artisanat sont en plein cœur du tissu urbain et que la règle là-dedans, c'est l'accès à la ressource et surtout être au plus proche de la clientèle pour pouvoir écouler ses produits. Que l'on voit par exemple les tanneurs, si on s'intéresse aux tanneries dans le monde ancien, elles sont toutes, presque toutes, en milieu urbain. voire carrément à proximité du forum, par exemple, pour une tannerie qui a été fouillée sur le site de Sepinum en Italie par Jean-Pierre Brun et Martino Guillou, où la tannerie est installée sur le forum, alors que le forum fonctionne. Hein, c'est
les tanneries qui dégagent des odeurs.
Qui dégagent des odeurs, qui ont besoin d'effectuer ce qu'on appelle le travail de rivière, c'est-à-dire quand les peaux arrivent avec les pattes et les cornes, il faut nettoyer, enlever les restes de viande, enlever les poils, avant de pouvoir les traiter, de faire le travail même de tanner.
Oui, et donc ça veut dire qu'il y a une conscience pour les citoyens romains ou de l'Empire romain de ces nuisances, mais qu'au bout du compte, on y voit un plus grand avantage à les maintenir dans des endroits qui sont proches des centres-villes, par exemple, et du forum, qu'à les mettre en dehors de la ville, comme on a pu le faire pour les villes occidentales à partir du 19e siècle, par exemple.
Voilà, par exemple, même on a un texte de Julien Lascalon, qui préconise, donc au VIe siècle de notre ère, qui préconise d'installer les fromagers et les fabricants de salaisons de poissons à l'extérieur de la ville et même très très loin des murailles si possible. Alors que, ça, pour le replacer dans un contexte, on est très tard. Et de ce qu'on sait par exemple pour l'époque, on va dire, impériale classique, tous ces ateliers-là, hein, que ce soit les fromagers, où les marchands, les fabricants de salaisons sont installés au plus proche des villes, puisque en fait la règle c'est tout simplement qu'ils doivent être installés proche de la mer, puisque c'est là qu'arrivent les ressources et qu'elles sont exploitées, et donc qu'il faut, on va dire, dans l'interface entre la ville et la mer.
Oui, parce qu'on parle de la qualité de l'air, mais on peut aussi parler de la qualité de l'eau. C'est une question qui s'est beaucoup posée dans les villes de l'Empire romain, avec en particulier à un moment la prise de conscience que peut-être les tuyaux de plomb qui acheminent l'eau corrompent
cette eau. Peuvent être nocifs et créer le saturnisme. Oui, ça, les textes en parlent, mais il n'empêche que ça existe. Et que si on prend dans l'exemple de Pompéi, beaucoup de maisons de Pompéi ont un accès à l'eau courante grâce à un château d'eau et un système de canalisation, et toutes ces canalisations sont en plomb.
Et tout le monde n'a pas les moyens de fuir la ville, comme Sénèque dans ses lettres à Lucilius.
Tu veux savoir ce que j'ai gagné à décider mon départ ? À peine eus-je quitté le mauvais air de Rome, et cette odeur des cuisines fumantes qui, une fois en plein travail, vomissent, mêlées à la poussière, tout ce qu'elles viennent d'engouffrer de vapeurs empestées, je me suis aperçu aussitôt d'un changement dans mon état. Mais tu ne saurais croire à quel point ma vigueur s'est accrue quand j'eus mis le pied dans mon vignoble. Lâché de la pâture, je m'en suis donné tout mon soûl. Je me suis pour le coup retrouvé disparu, cette langueur suspecte qui ne me disait rien qui vaille. Je me remets à travailler de toute mon âme. À cet effet, l'influence du lieu ne contribue guère. Il faut qu'il y ait prise de possession totale de l'âme par elle-même. Ainsi, au milieu des affaires, elle se créera, si elle veut, une solitude. Mais celui qui va choisissant ses villégiatures et court après le repos, il trouvera en tout lieu de quoi se tracasser.
Voilà pour ce texte de Sénèque dans ses lettres à Lucilius. Tous ces textes sont extraits d'un recueil de textes composé par Patrick Voisin pour les éditions des Belles Lettres sous le titre Écolo. Alors, Benoît Rossignol, je disais que ceux qui avaient de la chance avaient des villas à la campagne comme Sénèque et pouvaient profiter à la fois des avantages de la ville et alternativement des avantages de la campagne.
Oui, alors Sénèque, c'est aussi un des personnages les plus riches de son époque. Il y a une mise en scène de soi aussi dans ces lettres-là. Il y a cette idée qui est celle de l'aristocratie romaine. On est une aristocratie foncière, urbaine, mais qui reste extrêmement attachée à la campagne à cause de ses valeurs du bon paysan, du bonus agricola. Et effectivement, la vie de cette aristocratie est construite sur cette alternance entre le temps au forum et puis le temps de l'otium, souvent dans sa villa.
Du loisir.
La vie de la majorité de la population est évidemment bien différente, parce que la majorité de la population est rurale, et donc plutôt dans ses campagnes.
Mais il ne bénéficie pas des avantages d'avoir une villa et d'en être le maître, en l'occurrence.
Au contraire. Travaille pour le maître, bien souvent, et a un mode de vie qui est très rude, très dur. Ça, c'est... quand on constate un petit peu anthropologiquement à partir des sépultures, on voit les efforts de cette vie.
Victor Massé de l'Épinay.
Là, par rapport à ce que vous disiez en début d'émission sur l'opposition nature-culture, on a quand même l'impression dans cette lettre de Sénèque que ça y est, la rupture est consommée d'une certaine façon entre la grande ville et la campagne. L'homme semble s'être extrait de la nature, enfin, ou s'en être éloigné de façon assez radicale quand on lit ce genre de texte.
Oui, il y a des idées comme cela, surtout que ici on est dans un contexte un petit peu stoïcien. Sénèque prêche aussi pour sa paroisse. Il faut suivre la nature pour être en accord avec soi-même et avec l'univers.
Mais une ville gigantesque comme Rome n'est plus de l'ordre de la nature.
Oui, complètement. Donc il faut retrouver le bon ordre. Et je pense que la réalité urbaine de Rome, effectivement, devait représenter un choc considérable.
On a déjà eu à notre micro quelqu'un avec qui vous avez travaillé, en particulier pour un colloque récent, en l'occurrence Emmanuel Bott, Alexandre Vincent, qui dit qu'il n'y a pas simplement les nuisances d'odeur, il n'y a pas simplement les nuisances peut-être pour la santé, d'avoir une eau qui serait polluée, il y a aussi les nuisances sonores de cette grande ville qui évidemment fait beaucoup de bruit, Emmanuel Bott.
Oui, avec Alexandre Vincent, nous avons organisé une journée d'études l'année dernière qui s'appelait Le bruit et l'odeur, qui était surtout dédiée à l'étude des nuisances de l'artisanat en milieu urbain. Et évidemment, du coup, Rome jouait un rôle de premier plan. Et évidemment, il sortait encore Sénèque, qui joue un peu pour nous le rôle de père la vertu, avec à chaque fois des réflexions sur les nuisances, de quelles qu'elles soient, olfactives. Donc là, c'est ce qu'a montré aussi Alexandre Vincent, sur toute la question de paysage sonore, pour prendre un terme d'Alain Corbin, et que j'ai pris pour mon compte aussi avec Le miasme et la jonquille, où on voit en fait que Sénèque, par exemple, dit que le poisson, enfin le garum, donc le nocmam des Romains, c'est quelque chose qui est atroce, qui a une odeur pestilentielle, et pourtant on le retrouve à la table de beaucoup de Romains, et on voit bien que les ateliers qui les produisent ne sont pas si éloignés que ça des villes. Et donc on est dans un espace où on cohabite avec les nuisances, et où surtout la question des seuils de tolérance dans l'Antiquité, et même au Moyen-Âge, par rapport à aujourd'hui, sont bien différents des nôtres.
Oui, et tout de même, si on avance dans notre discussion, Benoît Rossignol, on peut dire aussi que l'augmentation de l'Empire romain, la création même de cet empire, l'augmentation de l'espace donc des Romains sur la Méditerranée et aux alentours, va causer des conflits d'usage, pourrait-on dire, avec les populations voisines. Vous avez travaillé, par exemple, sur un texte, un extrait très court de la guerre des Gaules qui évoque un conflit d'usage, pourrait-on dire, entre Romains et les populations qui étaient sur le territoire de Sénaboum, c'est-à-dire d'Orléans, au moment de cette guerre des Gaules. Et vous en déduisez qu'il y a d'abord les possibilités, grâce à la dendrochronologie, c'est-à-dire l'étude des cercles de vie des arbres, donc aujourd'hui, de voir qu'en 54 avant Jésus-Christ, donc avant notre ère, il y a eu une sécheresse très forte un été, et que immédiatement après cette sécheresse, eh bien, peut-être les populations locales de Sénaboum voyaient-elles d'un mauvais œil la prédation de céréales en particulier, qu'exigeait la présence d'un Romain dans la ville de Sénaboum, dans la ville d'Orléans, et donc qu'il y a eu des conflits qui ont abouti, c'est ce que vous pensez en tous les cas, on le sait par le texte, à la mort de ce Caius Fufius Cita, donc dans cette ville de Sénaboum. Donc il y a là aussi une façon de concevoir en tant qu'historien comment deux façons de percevoir la nature, l'environnement, la prédation sur cette nature peuvent créer des oppositions et des conflits.
Oui, c'est une petite histoire un petit peu intéressante. C'est une prédation parce qu'on est en période de guerre, parce qu'on est au cœur de la guerre des Gaules. Et César, donc, a son armée. Une armée romaine vit rarement sur le terrain. Normalement, l'armée romaine a sa logistique. Mais on est dans une période de concurrence entre César et Pompée. Leur alliance, le triumvirat, se délite. Et c'est Pompée qui a la main mise un peu sur le ravitaillement en blé, donc César a tendance à vivre de plus en plus sur le pays, à exiger donc des Gaulois du blé pour nourrir ses troupes, et ses troupes sont extrêmement nombreuses. Alors, il les dispersait sur le terrain, Mais pour des raisons stratégiques, les Gaulois ont bien senti que si César dispersait ses troupes, elles étaient plus vulnérables. Donc pour faire face aux révoltes, César a été obligé de concentrer ses troupes et installe donc 6 légions vers Sens.
25 000 hommes, c'est ça?
Alors 6 légions, c'est à peu près ça. C'est vraiment créer une ville ex nihilo et il faut les nourrir pendant tout l'hiver. Et donc il y a une prédation qui est lié à la situation de guerre.
Alors, en l'occurrence, on paye, j'imagine, ça n'est pas une...
Alors, oui, ça doit passer par des alliances, des commerçants, mais dans quelle mesure on paye, dans quelle mesure on se sert aussi, c'est difficile à dire.
En tout cas, c'est pour nourrir ces 25 000 hommes, ce qui est pris pour nourrir ces 25 000 hommes est enlevé à tous ceux qui vivent sur ce territoire-là.
Aux Gaulois. Alors, la Gaule n'est pas non plus la Gaule qu'on peut imaginer de nos ancêtres les Gaulois. On sait bien qu'au contraire...
Il faudrait répéter à Nicolas Sarkozy, en l'occurrence.
Les forêts étaient déjà bien entamées, et que c'est un paysage de champs, qu'il y a une production de céréales considérable. C'est ce que montre justement toutes ces disciplines du paléo-environnement, comme la carpologie qui étudie les restes végétaux, qui montre qu'il y avait des productions céréalières énormes, mais justement, la dendrochronologie, l'étude des cernes des arbres, confirme ce que dit César, c'est que l'année 54 a été marquée par une sécheresse, et donc de très mauvaises récoltes. Et l'année 53 aussi, c'est ce que nous apprennent les arbres, que donc on se trouve à la veille de la révolte de Vercingétorix, en quelque sorte, dans une espèce de pic d'exaspération.
Crise frumentaire, comme on aurait dit pour le XVIIIe siècle, juste avant la Révolution
française. Sans doute pour ces régions où Rome demande le plus de blé.
Et quand Rome s'installe, elle change aussi l'environnement tout de même, parce que évidemment il y a des goûts qui sont les goûts des Romains. Vous avez parlé tout à l'heure du garum, donc qui se fait à partir de poissons, mais il y a aussi l'olivier et l'huile d'olive évidemment. Il y a aussi la vigne. Et tout cela fait que, on le sait par l'archéologie, et vous êtes archéologue, Emmanuel Bott, eh bien, quand on arrive dans une région, eh bien, d'un seul coup, l'environnement naturel, entre guillemets, change.
Oui, parce que on sait par définition que la triade méditerranéenne, la triade alimentaire, c'est le vin, l'huile et le blé. Et quand les Romains acquièrent de nouveaux territoires, ils y envoient évidemment souvent des colons d'anciens militaires pour qu'ils puissent s'installer et créer des fermes. Et dans ces cas-là, dans une zone dans laquelle je travaille, qui est la Croatie, dans un programme dirigé par Marie-Brigitte Carr, du Centre Camille Julien également, on voit que dans les études qui ont été menées, dans la région de l'Istrie, les études notamment palynologiques ont montré, grâce aux travaux des géomorphologues et des palynologues,
l'étude des pollens,
ont montré que c'est à partir de l'installation des Romains, donc au cours de l'époque augustéenne et tout au long du premier siècle de notre ère, qu'on va voir la mise en culture et éventuellement un pic de la présence de la vigne et de l'olivier qui montre bien justement une mise en exploitation de ces territoires. Et c'est ce que j'essaie de faire sur un peu plus au sud de l'Istrie, dans un territoire qui s'appelle la Dalmatie, avec ma collègue de Marne-la-Vallée qui s'appelle Audrey Bertrand. Et nous avons mis en place justement ce programme d'études sur l'exploitation des ressources de la Dalmatie et de voir justement comment les Romains s'approprient un territoire et en exploitent ses richesses.
Et donc, cette exploitation, elle porte sur l'exploitation de ce qui pousse sur les sols, mais aussi de ce qui est contenu dans le sous-sol. Et Pline l'Ancien, d'une certaine façon, dans ce recueil de textes écolo paru aux Belles Lettres, nous dit, et c'est un extrait de son Histoire naturelle, nous dit qu'il faut tout de même faire un peu attention à ce que l'on fait quand on plonge dans les sous-sols, Nathalie Canoui.
Nous parlerons maintenant des métaux, qui sont la richesse même et le prix des choses. L'industrie scrute le sein de la terre pour de multiples raisons. Ici, on creuse pour trouver des richesses, et les hommes recherchent l'or, l'argent, l'électrum, le cuivre. Là, pour l'agrément, ce sont les pierres précieuses et les couleurs pour peindre les murs et les boiseries. Ailleurs, pour satisfaire une rage aveugle, c'est le fer, plus apprécié même que l'or au milieu des guerres et des massacres. Nous suivons obstinément toutes les veines de la terre, et vivons sur un sol miné, nous étonnant qu'il s'entr'ouvre parfois pour se mettre à trembler, comme si, en vérité, l'indignation de notre mère sacrée ne pouvait se manifester de cette façon. Nous pénétrons dans ses entrailles et cherchons des richesses dans le séjour des mânes, pensant que la terre n'est pas assez généreuse et fertile, là où nous la foulons aux pieds. Mais ce qui cause notre perte, ce qui nous mène dans ses enfers, ce sont les matières qu'elle a cachées dans ses profondeurs et qui ne se forment pas en un jour. De la sorte, notre imagination s'élançant dans le vide calcule quand, dans la suite de tous les siècles, nous aurons fini d'épuiser la terre et jusqu'où pénétrera notre cupidité. Combien notre vie serait innocente et heureuse, combien même elle serait raffinée si nous ne convoitions que ce qui se trouve à la surface de la terre. Bref, que ce qui est près de nous.
Un extrait de donc l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, Victor Massé de l'Épinay.
Oui, ce qui est très étonnant dans ce texte de Pline l'Ancien, c'est que on voit que la prodigalité de la terre a des limites, que les ressources sont finies. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est de voir quand il dit, de l'écouter dire les matières qui ne se forment pas en un jour. Cette conscience déjà que les métaux, que les gisements sont eux-mêmes produits d'une formation, que ce n'est pas un donné dans lequel on va puiser, mais que c'est quelque chose qui a besoin de temps pour se former. Le temps de la terre est pris en considération par Pline l'Ancien.
Emmanuel Bott.
Le temps est pris en considération, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier déjà que la recherche des métaux était quand même à l'origine de la colonisation de la Méditerranée.
Et puis, donc, vous voulez dire qu'entre la théorie et la pratique, il y a une distance, une
oui,
distorsion.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en gros, on peut penser cela, effectivement, cette finitude de la nature et des matériaux qui sont dans son sous-sol, mais qu'on ne fera rien pour interrompre
la conquête
de ces sous-sols.
Ça n'empêchait pas qu'on continue à les exploiter, qu'on cherchait surtout de nouveaux territoires où exploiter ces richesses. Et l'Égypte au premier plan, par exemple.
Oui, Benoît Rossignol.
Oui, alors, il faut aussi, justement, replacer un peu les choses du point de vue des échelles. Il ne faudrait pas qu'en nous écoutant, on imagine que les Romains se jetaient sur l'environnement, détruisaient tout ou changeaient tout. La plupart des terres de l'Empire romain n'ont pas vu de colons romains. Et ont eu leur évolution qui parfois commence avant l'Empire. Et c'est la même chose. On a Pline qui semble s'effrayer que les mines vont manquer. En fait, les Romains ont épuisé très peu de filons. La plupart des mines romaines ont été réexploitées à l'époque moderne et contemporaine. Ouais. Donc il y a à la fois une réalité. On voit à l'époque romaine, dans les glaces du Groenland, un pic de pollution au plomb. Qui correspond à la production romaine de métaux, et en même temps, une espèce de peur. Hein. On disait le père la morale pour Sénèque, on est un peu dans le même genre de réflexion.
Oui, et même si les ressources ne sont pas épuisées, il y a quand même chez Pline l'idée d'une agression de la Terre, à laquelle elle pourrait répondre par les éruptions volcaniques ou les séismes, puisqu'il semble que c'est de ça dont il parle.
Oui, c'est l'idée de cette nature où justement les éléments sont en correspondance, où le microcosme répond au macrocosme, des équilibres qui traversent l'univers, des dieux jusqu'à la matière inerte, qui n'est pas vue comme forcément inerte, hein, puisque on trouve des fossiles. Donc on a l'impression que les pierres peuvent faire apparaître des formes de vie, la vie. La génération spontanée, c'est aussi quelque chose à laquelle on croit. Donc ces équilibres rendent les choses délicates. On peut toujours être un peu inquiet. Et lorsque des catastrophes arrivent, on essaye de leur trouver une origine.
Et donc cette origine, la plupart du temps, c'est le déséquilibre. Déséquilibre de la nature, déséquilibre de l'hommage aux dieux, qui d'une certaine façon a fini par peser. Vous évoquez le cas, Benoît Rossignol, de ces éruptions volcaniques, qui sont nombreuses, pas simplement à Pompéi ou à Herculanum, dans cette période de l'Empire romain. Et ces éruptions volcaniques, il faut leur trouver une raison, et donc c'est ce déséquilibre souvent qu'on met en cause.
Oui, ou la démesure, ou alors c'est souvent de l'actualité politique aussi qui peut être mobilisée.
Ça peut être un présage d'une certaine façon.
Oui, ou une réponse de l'univers à un événement. Je pense à la mort de César. César est tué donc le 15 mars 44. À ce moment-là, on se met à observer ce qui se passe autour, parce qu'on sent bien qu'il y a eu un bouleversement, et donc les signes naturels apparaissent, parce qu'on les cherche. Il se trouve qu'à ce moment-là, l'Etna a une éruption assez importante, une comète est passée aussi, donc la nature et le monde des hommes se répondent, et il y a des signes à lire, des signes à déchiffrer, qui peuvent être inquiétants.
Et les signes pour l'archéologue et donc le spécialiste que vous êtes, Emmanuel Bott, ils sont de plus en plus nombreux, c'est-à-dire qu'on a l'impression que cette histoire environnementale, pourrait-on dire, de Rome et de l'Empire romain est en cours de fabrication, que vous êtes en train, tous les uns les autres, d'y réfléchir ensemble.
Oui, je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'on est vraiment au début, dans les balbutiements de cette thématique, puisque là, c'est en travaillant justement avec d'autres spécialistes, donc pas seulement entre historiens et archéologues, mais évidemment avec des paléontologues, des géomorphologues, tous ces spécialistes, qu'on peut commencer à tisser un discours qui tiendra la route, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est surtout d'avoir des données suffisantes pour faire des mises en série.
Alors justement, il y a quelques textes, il y a la dendrochronologie, est-ce qu'il y a des nouvelles sources qu'on pense pouvoir exploiter bientôt, des nouvelles natures de sources ?
Vous travaillez avec Sébastien Duraud, en l'occurrence.
Je travaille avec Sébastien Duraud, qui était dendrochronologue. Il a un peu changé, hélas, parce que justement, faut voir que c'est des disciplines où parfois on n'a pas forcément les moyens qu'on aimerait, et que c'est aussi des choses qui sont compliquées. Ça demande un travail interdisciplinaire, ça demande aussi des moyens. Et
ça demande de se comprendre entre sciences dites dures et sciences humaines comme le sont, et sociales comme le sont, l'histoire ou encore d'autres disciplines de ce type. Brièvement, Emmanuel Bott, oui, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord.
Merci donc à tous les deux, Emmanuel Bott. Donc, je rappelle que vous êtes auteur de Fish and Chips, avec un S, le chips en l'occurrence, sur l'exploitation de la mer à l'époque antique, c'est chez Errance. Et Benoît Rossignol, vous avez contribué à un ouvrage, Occident romain, aux éditions Errance. Merci à Nathalie Canoui qui a lu pour nous les textes, et à vous, Victor Massé de l'Épinay. Demain, nous conclurons notre semaine sur les politiques environnementales en nous interrogeant sur la question des villes, mais des villes du 19e et du 20e siècle, et de la façon dont elles ont géré certaines crises, justement. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et par Aurélie Marseille. Nous avions avec nous Jean-Frédéric à la technique et Véronique Samouilov à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'y écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger pendant un an après sa diffusion et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse de la Fabrique sur Twitter, c'est Fabrique FC.